RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules avec Flora Gebali, avec Charles Consigny et avec Didier Giraud. Midi moins 20 tout à l'heure. Les Français n'ont jamais acheté autant, alors on va dire fringues, mais de vêtements. Jamais autant. C'est plus de 40 pièces de vêtements par an pour les Français.
C'est aucun Français.
Mais vous
les vêtements
ne
sont pas français.
Ah ben ça, c'est la question. En général, non. Vous savez que même aujourd'hui, les magasins d'occasion sont saturés de vêtements. Tellement, en fait, on achète, on laisse, on revend pas, on s'en fiche, on jette. Donc, il y a un vrai problème. Est-ce que vous êtes un acheteur compulsif de vêtements? Vous venez en parler à midi moins 20. La canicule, on en parlera à 11h20. Là, on va monter jusqu'à 40 degrés là, hein, au fil des jours, avec un pic durant le week-end, samedi, dimanche. Est-ce qu'on est prêt, oui ou non? Mais d'abord, on va parler politique, on va accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Marquis, on peut poser la même question. Est-ce que du côté d'Horizon, ils sont prêts, oui ou non, à 2027? C'est Jérémy Patrier-Létus qui est avec nous, député Horizon du Calvados. Il a été la président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Bonjour, monsieur le député.
Merci de m'accueillir.
Votre candidat, c'est Édouard Philippe. On va en parler. Mais monsieur le député, seriez-vous prêt à vous soumettre à un test salivaire antidrogue?
Quand vous voulez.
C'est normal. Alors on a juste un huissier qui est là.
Ah bah vous pouvez y aller.
Il va entrer sur le plateau.
Je bois pas, j'ai aucun vice en tout cas.
Mais
pas,
est-ce que Sébastien Lecornu a raison de tester ses collaborateurs et de vouloir tester plus largement les fonctionnaires?
Bah, que de dire que ceux qui font la loi, qui la mettent en œuvre, que dans l'exécutif, que les législateurs, effectivement, ne prennent pas de drogue et font la loi en évitant d'être alcoolisés, ça me paraît assez simple.
On aurait sans doute
des Français. Enfin, regardez chez moi. Moi, je suis dans le pays d'Auge. Il y a des contrôles routiers tous les dimanches, tous les samedis. L'ensemble des Français se soumettent à ces tests sur les contrôles routiers. Donc,
on aurait des surprises à l'Assemblée.
C'est du calva là-bas.
Et pourtant, c'est du calvados.
Ah, on aurait des surprises à l'Assemblée nationale.
Moi, j'en sais rien. En tout cas, pas chez nous.
Pas Horizon.
Demandez à d'autres groupes politiques.
C'est pas les plus fêtards.
Comment?
Semble-t-il. Bon,
on travaille à l'Assemblée, ouais.
Bon, on peut faire la fête.
Oui, enfin, on n'est pas obligé d'être drogué et alcoolisé quand on fait la loi.
Quand on regarde le parti Horizon et ses figures, on se dit pas spontanément qu'ils passent leur nuit au Pacha à Ibiza. C'est juste ça que je...
Alors que vous, oui, Charles.
Mais je le dis sans méchanceté, je le constate.
Mais ça veut dire qu'on demande à ceux qui nous gouvernent de l'exemplarité. On n'est pas sûr d'avoir cette exemplarité. Parce que si Sébastien Lecornu est obligé de faire ses tests, qui lui-même, il a un doute, il se dit, ouais, peut-être qu'autour de moi, il y a des problèmes.
On va pas faire semblant de pas savoir qu'il y a eu des députés qui ont, si c'est pas trafiqué de la drogue, en tout cas en ont consommé. Il y a eu effectivement dans l'appareil d'État quelques cas effectivement de consommation de drogue. Et donc de dire que l'exécutif, le législateur sont exemplaires et ne consomment pas ni de drogue ni d'alcool quand ils travaillent, ça me paraît
normal. Mais est-ce qu'il va le faire au moins?
Vous lui demanderez, il viendra vous le dire, je pense qu'il le fera.
Est-ce que c'est utile?
Comment?
Est-ce que c'est utile?
Bah, si ça permet,
ou c'est de la com?
Comment?
Est-ce que c'est utile ou c'est de la com? Est-ce si que derrière permet, on fera le ménage si faire, jamais on s'en aperçoit?
On va pas faire le débat entier sur ce sujet, mais si non. Ça permet de détecter quelques cas concrets, ben ça sera déjà ça.
Édouard Philippe sera peut-être président dans moins d'un an. En attendant, c'est le roi du silence.
Ah bon?
C'est une stratégie?
Moi, j'ai pas trouvé. Hier, il était à Vivatech où il a parlé de sa stratégie pour l'intelligence artificielle. Il était il y a quelques jours dans un département rural pour parler agriculture. Il a parlé justice dans une grande interview dans Le Parisien. Je sais que depuis des mois, depuis qu'il est candidat à l'élection présidentielle, on explique qu'il ne parle pas. Moi, je vois des annonces très concrètes.
Alors, on l'entend pas alors?
Comment?
C'est pire, c'est qu'on ne l'entend pas.
Ah bah
parce que vous dites qu'il parle, mais donc on ne l'entend
pas.
Il faut
savoir, parce que moi j'ai vu passer sur les réseaux sociaux il y a quelques jours une caricature de ce qu'il avait dit dans un podcast sur l'intelligence artificielle.
Ah, c'était moi.
C'était vous d'ailleurs qui l'avez caricaturé.
Moi,
donc
alors,
attendez, pour certains, il parle trop et mal, pour d'autres, il ne parle pas.
Expliquer.
Mais vas-y. Moi je vais vous dire, il a des propositions très concrètes. J'espère qu'on pourra en parler, parce qu'il a parlé sur l'agriculture, il a fait un déplacement très concret avec des propositions très concrètes.
Des positions, tout le monde en a,
oui. Mais il a des mesures concrètes.
Alors il était chez l'entrepreneur Mathieu Stéphanie dans un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, et à un moment, donc Mathieu Stéphanie, comme tous les entrepreneurs, est très porté sur les questions d'IA. Donc, ne serait-ce que quand on sait qu'on va à son micro, on sait qu'on va parler d'IA, ça paraît assez évident. Il lui dit alors l'IA, et là, Édouard Philippe fait vraiment pour moi la caricature de la réponse d'Énarque qui met trois mots compliqués bout à bout et qui pense qu'il va contourner la question comme ça. Et donc il dit je sais plus exactement ce qu'il dit, mais oui, j'ai déjà utilisé ChatGPT, bien sûr, comme tous les Français. Enfin bon, et là, Mathieu Stéphanie, qui est un intervieweur, il est pas là pour, est tellement outré qu'il lui répond, vous savez, vous devriez vraiment vous y intéresser parce que là on est à un an d'une présidentielle et voilà. Moi le truc qui me fait réagir, c'est que les plus grands chercheurs du monde entier expliquent d'une seule voix que l'IA est la plus grande révolution que l'histoire de l'humanité aura connue. Harari, un mec qui vend des best-sellers et qui est un des plus grands chercheurs aujourd'hui, il dit que c'est une invention plus importante que la bombe nucléaire. Donc moi, mon commentaire, c'était de dire, imaginez un dirigeant politique au lendemain d'Hiroshima, dire oui, la bombe nucléaire, c'est un sujet, hein. On aura des idées pour répondre. Oui, on s'y intéressera. Imaginez.
Il y a eu beaucoup de caricatures de cet extrait. Je rappelle juste, je vais pas être trop long, Édouard Philippe, Premier ministre, a lancé une stratégie sur l'intelligence artificielle. Il n'est pas Premier ministre depuis 2 mois, qui demande à Cédric Villani, un des grands chercheurs mathématiciens, de réfléchir. De fixer une stratégie sur l'intelligence artificielle. Hier à Vivatech, et vous pouvez contester les mesures, mais il a présenté sa stratégie très concrète pour faire de la France un acteur majeur de l'intelligence artificielle. C'est quoi l'enjeu? Et vous avez raison. D'ailleurs, Édouard Philippe l'a dit. On a eu le charbon, grande révolution du 19e siècle. On a eu le nucléaire. Aujourd'hui, l'IA, c'est la révolution sans doute la plus importante du pays et du monde dans les années à venir. Et la France ne peut pas manquer cette révolution technologique. Et donc, il faut des propositions très concrètes pour que la France ne soit pas soumise.
Lesquelles, par exemple?
Je vais vous donner une réponse très claire. Pourquoi les Chinois et les Américains sont en avance sur la question de l'intelligence artificielle? Parce qu'ils utilisent la commande publique. C'est-à-dire qu'ils font appel aujourd'hui à la préférence nationale. La France, l'Union européenne ne le fait pas. Édouard Philippe propose très concrètement qu'on puisse utiliser la commande publique française, européenne, pour développer l'intelligence artificielle. Il y a 4 ans, et je termine là, personne n'en parlait. Pour faire de l'intelligence artificielle, pour être souverain, pour être indépendant, il faut des ingénieurs. Il nous manque 100 000 ingénieurs par an. Édouard Philippe était le seul, en 2021, je le dis, quand il lance Horizon au Havre, j'y étais, en expliquant que les Chinois formaient 1 million d'ingénieurs par an, que les Américains pareil, que nous, la France, on n'était pas capable de former des ingénieurs alors qu'on a des écoles d'ingénieurs remarquables. Donc avec, par exemple, le développement des formations d'ingénieurs. Qui a développé l'apprentissage en France? Pardon, je ne veux pas vous...
Non, c'est très intéressant ce que vous dites.
Qui a développé l'apprentissage?
Mais du coup,
Édouard Philippe, 1 million d'apprentis.
Mais du coup, vous êtes en train de faire un virage idéologique du libéralisme vers une forme de souverainisme, de protectionnisme.
Non, il est hyper étatiste.
J'ai
une question.
On peut admettre que sur certaines technologies pionnières, il faille un accompagnement de l'État. Pour amorcer la révolution de l'intelligence artificielle, bien sûr qu'il faut l'État. Bien sûr qu'il faut une stratégie de l'État. Ça n'empêche pas qu'ensuite il y a des entreprises et que le marché va jouer son rôle. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, face aux géants américains et chinois, au protectionnisme américain et chinois, il faut que la France et l'Europe se protègent et développent une stratégie d'intelligence artificielle.
Tu parles, Charles.
De toute façon, Édouard Philippe est très étatiste, il le reconnaît, il l'assume et il a le droit. Moi, c'est plus une question de... Je trouvais qu'Édouard Philippe avait un côté quinquagénaire cool, assez sympa, Premier ministre. Et on a le sentiment que depuis qu'il se rapproche de l'Élysée, comme s'il était un peu submergé par la perspective de cette charge, tout se complique dans sa tête et dans son verbe. C'est-à-dire que ça fait longtemps que j'ai pas entendu une phrase claire et simple de sa part. C'est toujours des espèces de raisonnements et des manières de dire les choses très compliquées. On sent qu'il veut pas déclencher une polémique, fâcher quelqu'un, s'aliéner je ne sais quel courant. Est-ce que il devrait pas un peu se détendre et voilà, redevenir le gars qu'il était?
Le type cool?
Oui, moi je trouvais qu'il avait le côté droite cool. J'ai déjà dit ici, Peugeot 5008, bande de copains, Edouard mon pote de droite. Voyez, et on a le sentiment que là, tend beaucoup. Se jupéise à grande force.
Ça c'est la caricature à chaque fois. Je vous trouve très nuancé, Charles.
C'est pas aussi du tout ma part. C'est un constat, encore une fois.
Moi, je vois quand même un candidat qui se prépare à l'élection présidentielle de manière sérieuse. On peut pas lui reprocher. Honnêtement, on a vu les candidatures improvisées en 2022, les candidats qui se déclaraient 15 jours avant et qui nous expliquaient qu'ils allaient transformer le pays. On peut pas reprocher à Édouard Philippe de se préparer depuis quelques années maintenant, de se déplacer partout en France. Alors effectivement, il le fait pas avec des millions de caméras, et quand il se balade en France, effectivement, il le fait pour aller parler aux Français et faire des propositions. Mais quand il va, dans l'Ain, faire des propositions sur l'agriculture très concrètes. Et pardon, il fâche des gens. Il essaye pas de contenter tout le monde quand on dit qu'on va inscrire la protection de l'agriculture dans la Constitution. Mmh. Je peux vous dire que ça fait pas consensus. On pourra en parler avec Monsieur Giraud quand il dit qu'on va arrêter.
C'est pas ça qui va leur filer à bouffer aux agriculteurs. Ouais. Alors, c'est pas ça qui va augmenter leur salaire.
Alors, attendez, on va proposition très très concrète. Vous voulez les propositions. Qu'est-ce que dit Édouard Philippe? Et vous le savez, aujourd'hui, on a voté des lois pour protéger, soi-disant, le revenu des agriculteurs en leur imposant des négociations annuelles avec les industriels. Mmh. Folie. Édouard Philippe dit, on va revoir complètement le cadre des négociations entre les agriculteurs. Et puis, il y a un sujet majeur.
Énorme. C'est pas comme s'il n'avait pas été premier ministre.
Attendez.
Les normes, ça m'intéresse.
Soyons très clairs. Aujourd'hui, l'Europe, c'est en gros, vous le savez mieux que moi, 80-100 normes sur l'agriculture. La France en ajoute une centaine de plus.
Ça fait 300 en tout.
Édouard Philippe dit, c'est terminé, plus de surtransposition. On fera pas plus que ce que l'Union européenne fait. Et d'ailleurs, on va demander à l'Union européenne de faire un peu moins. Et donc, par exemple, à l'Assemblée nationale, les députés Horizon, vous avez devant vous un député qui a pas voté pour l'accord sur le Mercosur. C'est concret. C'est pas du blabla. C'est très concret. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit.
Est-ce que je peux répondre?
Ah oui, merci. C'est Didier Giraud.
Concrètement, les normes, chaque ministre de l'Agriculture qui se sentait indestin nous l'a promis, cet allègement de normes. Mon quotidien d'agriculteur, il fait que se complexifier.
Donc plus on promet un allègement, plus il y en a.
Plus c'est la merde. Si je prends par exemple le dernier truc en date, c'est la procédure à travers des codes, des sites, des recodes qu'il faut changer tous les 3 mois dans un site dédié du gouvernement pour obtenir 4 centimes de remboursement sur le gasoil non routier, peut-être bientôt 15, c'est fait pour décourager les gens. Voilà. Oui. Et je crois que les agriculteurs vont se porter bien si on dégage tous les offices comme l'OFB, le machin, le truc. Moi, je peux parler du loup pendant 2 heures, si vous voulez, quoi. Mon plus proche voisin s'est fait bouffer un veau. La réponse qui lui a été faite, c'est le loup n'est pas exclu. Voilà. Le loup n'est pas exclu. Eh ben ça, les agriculteurs, ils en peuvent plus. Et tout le monde leur promet que ça ira mieux. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Ça fait 30 ans qu'on continue à me faire chier du lever du jour au coucher du soleil. Voilà. Et je peux même plus produire ce que je veux parce que des multitudes de produits sont interdits pour produire alors que mes voisins européens ont ces produits-là. Voilà.
Vous avez parfaitement raison et votre colère, vous voyez, moi qui suis de l'Ivaro notamment, je l'entends tous les jours, mes agriculteurs.
Vous auriez dû venir avec un cadeau.
Une réponse quand même concrète qu'apporte Édouard Philippe. Ouais, on en est attaqué par les mouches. Charte de l'environnement est dans la Constitution. Je vous réponds parce que c'est important, parce qu'effectivement, tout le monde dit on va simplifier, on va déréguler, on va alléger les normes, et ça se fait pas. Pourquoi? Quand on vote des lois pour simplifier les normes sur les agriculteurs, le Conseil constitutionnel censure d'une partie de la loi agricole. Pourquoi? Charte de l'environnement dans la Constitution, l'agriculture, la protection des agriculteurs n'est pas dans la Constitution. Qu'est-ce que propose Édouard Philippe? Et c'est une mesure forte. Elle n'a pas été assez sans doute expliquée, mais je l'explique en 2 minutes ici. Dire que demain, dans la Constitution, on reconnaîtra le principe de sauvegarde des agriculteurs et de l'agriculture. Ça veut dire demain, le Conseil constitutionnel...
Donc on supprime la Charte de l'environnement?
Non, c'est pas ce qu'on dit. On dit que demain, le Conseil constitutionnel ne pourra plus censurer des mesures d'allègement des normes vis-à-vis des agriculteurs, tout ce que
donc
vous venez de dire.
Donc on pourra rétablir des pesticides partout.
Parce que c'est pas non plus, je suis pas dans la caricature, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'on reconnaîtra au même niveau que la Charte de l'environnement la protection et la sauvegarde des agriculteurs. Ça veut dire que demain, si on décide
c'est ton
d'alléger,
droit à bouffer en toute indépendance.
Demain,
au lieu d'interdire les produits plein de produits phyto de l'étranger, on autorise les nôtres à en remettre.
C'est pas ce que je dis. Ça veut dire que demain, quand on allègera, vous m'écoutez pas. Ça veut dire que demain, quand on allègera des normes, que l'Assemblée votera l'allègement des normes, le Conseil constitutionnel ne pourra pas dire que c'est pas possible parce que c'est pas constitutionnel. On mettra au même niveau la Charte de l'environnement. Moi, je suis attaché, Édouard Philippe, aussi à la transition écologique, mais la transition écologique ne peut pas se faire contre les agriculteurs. C'est ça qu'on dit.
Mais c'est pas contre les agriculteurs, mon cher. C'est pas contre les agriculteurs. C'est contre votre droit à l'indépendance alimentaire demain.
À la souveraineté alimentaire. Et il faut concilier deux. On peut pas avoir la Charte de l'environnement dans la Constitution et pas les agriculteurs et l'agriculture. C'est pas possible.
Pourquoi est-ce que les Français voteraient pour un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron?
Alors, peut-être parce qu'ils veulent éviter effectivement.
Pourquoi est-ce qu'ils continueraient?
Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il faut pas caricaturer Édouard Philippe. Si vous me permettez deux secondes.
Il a été Premier ministre d'Emmanuel Macron. Ça, c'est pas une caricature.
Et je vais vous dire, c'est une bonne question. Je rougis pas de son bilan comme Premier ministre. Je ne vais pas vous faire la liste ici de ce qu'il a fait comme Premier ministre, parce qu'on parle toujours du 80 km/h et des gilets jaunes. Mais enfin, comme Premier ministre, qui a dédoublé des classes en CP et CE1, qui a augmenté pour la première fois le budget de la justice, qui a recruté des policiers et des gendarmes, qui a essayé comme Premier ministre de transformer la France. Je pourrais vous faire la liste. Honnêtement, il n'a pas démérité comme Premier ministre, et je pense que les Français gardent quand même l'image, et Charles l'a dit tout à l'heure, d'un Premier ministre qui a essayé de tenir le cap et de tenir la barre dans des conditions pas faciles. Maintenant, peut-être qu'ils voteront Édouard Philippe, en tout cas moi je le souhaite, pour éviter le programme socialiste de Marine Le Pen et le programme insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Peut-être pour éviter la France bling bling de Bardella et la Nouvelle France et la Nouvelle France de Mélenchon.
Est-ce que c'est pas ça le problème d'Édouard Philippe? Ça sera pas un vote d'adhésion, mais ça sera un vote contre, pour empêcher Mélenchon et Bardella. Et d'ailleurs, je pense que dans les sondages, les gens disent Édouard Philippe parce qu'ils veulent pas de Mélenchon. En fait, vous n'arrivez pas à transformer ce vote en un vote d'adhésion et d'enthousiasme autour d'Édouard Philippe.
Quand j'ai vu le thème du débat, j'ai dit exactement comme vous, Édouard Philippe, il va pas gagner simplement pour faire barrage à Marine Le Pen, à la France bling bling de Bardella, à la Nouvelle France de Mélenchon. Ça fait pas un programme. Édouard Philippe, il doit gagner avec des propositions concrètes, massives sur la justice. Pardon, dans Le Parisien, dimanche dernier, il a des mesures très concrètes pour protéger nos enfants.
D'accord.
Parce que l'État a failli, qu'on est infoutu en France de protéger nos enfants.
Comme 53% des Français, je suis orpheline politiquement en vue de cette présidentielle. On est 53%, donc on est majoritaire. Moi, j'attends Édouard Philippe, ça pourrait être un recours, puisque moi, je suis anti-extrême. J'attends de voir ce qu'il a à dire sur l'IA, sur la transition écologique. Je n'entends rien. Quand est-ce que vous allez nous proposer un programme?
En un mot, regardez, parce qu'il parle, et il faut aussi entendre quand il parle. Hier, proposition sur l'IA, proposition sur l'agriculture, proposition sur la justice, il va décliner ses propositions, et rendez-vous le 5 juillet,
il y aura un grand meeting.
Eh ben venez, vous êtes la bienvenue.
Mais c'est pas impossible, vous êtes mon invité.
Le 5 juillet. Et Charles aussi d'ailleurs.
Charles, le 5 juillet.
Vous n'avez rien à faire, c'est un samedi, très chaud.
S'il y a Charles et moi dans la salle, c'est que vous arrivez à faire une ambiance.
Il nous reste 30 secondes. Je voudrais simplement vous remontrer une séquence qui avait fait beaucoup de buzz. C'est écoutez.
Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là?
C'était avec Charles Alloncle.
Devenu culte.
C'était vous, lors de la commission sur l'audiovisuel public. Vous êtes toujours pote avec Charles Alloncle ou pas là?
On a passé 6 mois ensemble, comme un vieux couple,
Vous avez divorcé, c'est pas beaucoup pour un couple, 6 mois. Hein.
Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, c'est un enjeu, les couples ne durent pas. Non, mais plus sérieusement, on a eu des vraies oppositions idéologiques. Moi, j'ai essayé de lui permettre, comme président, qu'il puisse faire son travail. La commission d'enquête est allée à son terme, il a pu mener ses auditions. Maintenant, on a des différences fondamentales, y compris politiques. Et je vais vous dire, Charles Alloncle, il faut qu'il assume de soutenir Jordan Bardella et Marine Le Pen à la présidentielle et qu'il soutient des candidats qui veulent privatiser l'audiovisuel public. On va pas refaire le match aujourd'hui.
Mais votre problème, c'est pas Charles Alloncle en ce moment, c'est ni Mélenchon ni Bardella.
C'est vous qui m'en parlez.
Votre problème, c'est Gabriel Attal.
Charles
Alloncle n'est pas candidat à la présidentielle.
Gabriel Attal, en revanche, il l'est. Et aujourd'hui, vous n'avez pas tué le match. Et je vois que Gabriel Attal, d'ailleurs, dans les sondages, vous grappille quelques points ici ou là. Et donc, il vous rattrape. Donc, aujourd'hui, votre problème, c'est Attal.
Aujourd'hui, nos adversaires. Attends, on ne va pas se tromper de match. Le match
C'est celui-là.
Nos adversaires.
Vous l'avez pas gagné,
nos adversaires, c'est la Nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon, la France Ligue Bardella. Ok.
Oui,
maintenant.
On a compris, pour vous trouver au deuxième tour, il va falloir gagner un premier match.
Il faut gagner un premier match. Et c'est pour ça qu'Edouard Philippe formule ses propositions, fait campagne sur le terrain. Rendez-vous le 5 juillet. Et les Français verront si, à l'occasion de ce meeting, ils souhaitent faire confiance à Édouard Philippe. En tout cas, moi, je crois qu'il est le mieux placé, effectivement, du bloc central, comme les sondages l'indiquent, même s'il ne faut pas toujours prendre les sondages comme parole d'évangile. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est le mieux placé pour battre et le Rassemblement national et la France insoumise dans les urnes en 2027.
Merci, Jérémy Patrieletus, député Horizon du Calvados, d'être venu dans les GG, dans les grandes gueules.
Merci pour votre invitation.
Dans un instant, la canicule, est-ce qu'on est prêt ou pas à affronter les 40 degrés durant le week-end? 32-16 pour en discuter avec les GG, il est 11h20. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à midi. J'ai un petit rappel quand même. Mais un rappel à 67 500 euros quand même. C'est pas rien. Avant 18h, coup de fil pour vous faire gagner la prime de match. Et oui, c'est la prime de match RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. à chaque match, chaque but marqué, la prime de match grossit pour le moment. Elle n'a pas été gagnée. C'est un coup de fil que l'on vous passe. Vous envoyez but par SMS au 732-16 pour pouvoir être appelé. Vous envoyez but par SMS au 732-16, 67 500 euros à gagner. Coup de fil à un auditeur d'RMC dans la journée, à n'importe quel moment, il faudra donner la somme exacte. Donc soyez fidèles au show d'RMC et les 67 500 euros, c'est peut-être pour vous. C'est Corinne qui nous dit qu'il fait chaud. Merci à elle. Il fait chaud.
On l'avait pas remarqué.
Très chaud. Et il va faire encore plus chaud jusqu'à dimanche.
Et on voit bien que rien n'est prêt pour faire face à ces vagues caniculaires qui se répètent. On disait ça il y a un mois et demi. Un mois et demi après, on entend les ministres nous dire à peu près la même chose. Et surtout, on entend par exemple la SNCF nous annoncer qu'elle va supprimer 71 intercités jusqu'à lundi, craignant des pannes de climatisation. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de clim, c'est qu'on pense que la clim ne va pas fonctionner, et donc, par mesure de précaution, on supprime les trains. Voilà, donc on voit bien que ni à la SNCF, et ni d'une manière générale, on est prêt. J'entendais M. Geffray, le ministre de l'Éducation nationale, nous expliquer pour la énième fois qu'il faudrait rafraîchir les classes, rénover, etc. Très bien, mais alors, est-ce qu'on a commencé à le faire? Alors, il n'utilise pas le terme climatisation, parce que c'est un mot tabou, hein. Faut pas climatiser. Bon, ça, je sais pas pourquoi, ça reste un sujet tabou. Bref, rien n'est prêt. Et donc, on va de nouveau affronter cette vague caniculaire en essayant de la passer quand on peut. Mais est-ce que nos hôpitaux sont climatisés? Est-ce que les EHPAD le sont? Est-ce que nos enfants sont protégés? Non.
Flora?
Non, moi, j'ai une pensée pour les jeunes qui passent le bac sous canicule. Parce que c'est difficile et que ça fait quelques années qu'on leur vole ce moment très important. Ceux qui passaient le bac pendant le Covid, ils en ont été privés. Maintenant, ils le passent sous 40 degrés dans des conditions qui sont franchement pas évidentes. Et on est en train d'abîmer la jeunesse parce qu'on on les aide pas à se préparer à vivre dans des bonnes conditions. On leur donne pas beaucoup d'espoir et on leur donne pas beaucoup de solutions. Maintenant, la chaleur, elle est là. C'est déjà le deuxième épisode caniculaire. On est au mois de juin. Moi, j'attends des politiques qui ont le pouvoir d'agir et le pouvoir de proposer des choses. Sauf qu'aujourd'hui, comment vous voulez donner de l'espoir à la jeunesse dans ces conditions? Le réchauffement climatique, c'est pas une projection future, c'est une réalité présente. Mais ni on s'adapte, ni on essaye de limiter. Voilà. Super.
Didier, comment ça se passe pour tes bêtes?
Non, mais moi, je crois qu'on en fait aussi des caisses là-dessus, sur la canicule. Enfin, la définition de la canicule, je vais vous la rappeler, c'est quand depuis 5 jours, la température nocturne n'est pas descendue en dessous de 20 degrés ou 25 selon les zones. Voilà, c'est quand même une définition qui fait que nous n'avons pas encore été en France cette année en canicule. Voilà. Après, le réchauffement, il est là et on s'adapte pas. Mais moi, je vais reprendre quelques exemples, tu vois, sur les doctrines qui nous conduisent à pas pouvoir nous adapter. Cet hiver, il y a eu des records de précipitations, comme il n'y a jamais eu depuis qu'on mesure la météo. Oui. Et on a regardé passer l'eau. Parce que derrière ça, il y a des doctrines. Il y a des gens qui t'empêchent de faire des retenues et de collecter l'eau. Il y a des gens qui t'empêchent de faire des méga-bassines. Donc, à un moment donné, l'eau, on fait quoi? On la regarde passer. Et puis, quand c'est la sécheresse, on dit « Oh, c'est terrible, c'est la sécheresse ». Aujourd'hui, s'il n'y a pas un endroit en France où on développe pas plus la climatisation, c'est parce que derrière, il y a des gens qui associent climatisation avec plus de réchauffement climatique. Et à un moment donné, les gens qui habitent aux abords du Sahara, dans le sud de l'Espagne, oui, ils se posent pas ces questions-là, quoi. Ils se posent pas ces questions-là. Ils stockent de l'eau l'hiver autant qu'ils peuvent et ils climatisent tout ce qu'ils peuvent climatiser. Les gens qui habitent... J'ai écouté hier qu'on en est rendu à peindre le toit des TER en blanc.
On en est là.
Ça fait baisser
la chaleur. On est le tiers-monde. On est un pays du tiers-monde. Mais merde qu'on fasse des rames avec la clim dedans,
quoi. C'est pas vrai. Tu dis que les personnes du sud de l'Espagne, elles se posent pas ces questions. Aujourd'hui, il y a des migrations climatiques qui sont enregistrées en Espagne. Donc, on parle pas du Sahara, on parle pas du Pakistan, on parle pas de la Chine, on parle de nos voisins. Donc, ils se posent des questions. Non, mais non seulement ils se posent des questions, mais en plus, il y a des familles originaires du sud qui ont toujours habité là, qui déménagent dans le nord.
Oui.
Non, mais sauf que cela dit que tu repeignes le toit, c'est peut-être le tiers-monde, mais c'est pas inutile de le faire. Les façades, beaucoup de façades des maisons qui sont exposées au soleil, elles sont en blanc.
Non, je te parle des rames de TER. On n'est pas foutu de faire marcher la clim.
D'accord. Mais en même temps, on peut pas
supprimer des trains parce qu'on craint une panne de climatisation.
C'est scandaleux.
Elle est quand même extraordinaire, là.
Ça, c'est honteux.
Je trouve que Didier a mis le doigt sur le sujet essentiel qui est l'adaptation au changement climatique.
Et l'eau.
En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'idéologie qui fait que on ne veut pas s'adapter parce que ce serait entériner l'idée que on ne peut pas revenir en arrière.
Et on reviendra pas.
Et ce que voudraient les Verts, en gros les écolos dans l'ensemble, ce serait que en gros on vive un peu comme on a vécu pendant le Covid, c'est-à-dire il n'y a plus d'avions, plus de circulation, chacun vit dans son jardin, plante ses tomates, et si on peut en plus limiter par tête la consommation d'électricité, d'eau. Arrêter le commerce,
le transport,
franchement,
etc.
Franchement, Charles, etc., franchement, etc., je suis désolé. Je t'interromps parce que c'est
non,
ce que tu dis.
Non, mais il y a non, je veux pas être interrompu. Non, t'as parlé quasiment mais, deux oui, heures et demie pendant l'émission.
Oui, mais Charles,
non, j'ai eu deux heures et demie de Flora Gebali. J'en ai marre, je te jure. Je le dis sans antipathie.
Ah non, c'est le débat, c'est le dialogue.
Non, je dis sans antipathie. Oui, mais il y a un moment,
c'est le débat, c'est le dialogue.
Il y a l'équilibre des temps de parole. Voilà. Deux heures et demie, c'est trop. Donc, simplement, je pense que le sujet, contrairement à ce que voudraient tous ces écolos, c'est maintenant de s'adapter. On doit s'adapter au changement climatique. Donc ça implique effectivement peut-être de climatiser un peu plus, ça implique d'anticiper.
De revoir notre temps de travail, l'organisation.
Qu'on découvre quand même en France, tous les étés on découvre qu'il fait chaud, tous les hivers on découvre qu'il fait froid. C'est quand même un vrai
mais sujet. Il faut quand même adapter les écoles,
ce que dit Charles est factuellement faux, puisqu'il y a plus de 3 ans, au Conseil de Paris, un plan pour l'adaptation au changement climatique qui s'appelle Paris à 50 degrés a été présenté et a été voté.
Il s'est passé quoi ?
Donc aujourd'hui, je peux te dire qu'il se passe énormément de choses, puisqu'il y a tout un plan d'adaptation qui.
Les écoles parisiennes, et je suis bien placé pour le savoir,
je suis désolée,
pas climatisé.
Je suis la première à critiquer les écolos quand ils déconnent. Là, aujourd'hui, c'est faux. Les mairies de gauche et je suis désolée, les mairies de gauche et écologistes font des plans d'adaptation. Mais
non, les mairies de gauche,
dans un conseil politique, qu'est-ce qu'on fait ? On vote des plans.
D'accord. Les
conseils politiques, ils votent des plans et ils sont en train de les appliquer.
Non, ils n'ont pas appliqué.
Mais à Paris, on a sorti les voitures de la ville pour. À Paris, il y a 10 degrés d'écart de ressenti en fonction de. Est-ce qu'il y a beaucoup de béton ? Est-ce qu'il y a beaucoup de voitures ? Est-ce qu'il y a beaucoup de verdure ? La ville de Paris est en train de se transformer. Les villes de droite, elles font quoi ?
Paris ne s'est pas en transformé. Paris, c'est la ville la plus embouteillée de France.
Mais arrête. Paris s'est transformée. Il y a des embouteillages de vélos. Il y a des embouteillages de vélos. Il y a des pistes cyclables dans toute la ville. Et toi-même, tu roules à vélo et t'es heureux de le faire.
C'est ça l'ambition, c'est de pistes cyclables.
Arrête d'être hypocrite.
Là, on te dit. C'est marrant parce que Laura, parce que tout à l'heure, tu nous as expliqué que. Attends, je termine. Tu nous as expliqué à propos de l'intelligence artificielle, tu te foutais de la gueule Édouard Philippe en disant, tu comprends, il voit pas. Toi, donc, ce que tu me proposes, alors qu'on va vivre de plus en plus avec ces vagues de chaleur, il va falloir s'y habituer, il va falloir continuer à vivre avec ça. On va pas s'arrêter de vivre, on va pas se confiner parce qu'il fait chaud. Et le truc que tu me dis, ah ben si c'est bien, on a fait les pistes cyclables. Pardon,
oui,
mais tu fais rire tout le monde.
Non,
moi
parce
je suis
que
désolé.
Dans une ville...
La priorité
Alors,
c'est
Olivier,
pas les pistes cyclables. La priorité
Olivier,
c'est que nos gamins puissent être dans des écoles
d'accord.
pour
et
étudier.
La priorité c'est qu'on puisse rester vivre dans cette ville. Et aujourd'hui,
les gens se barrent, les familles se barrent.
Et aujourd'hui, la question se pose. Pourquoi ? Parce qu'une ville à 40 degrés, c'est supportable. Une ville à 50 degrés, c'est insupportable. Et ces 10 degrés, ils dépendent précisément des voitures. Donc oui, faire des pistes cyclables, c'est la réponse la plus
adaptée. La gauche est au pouvoir depuis 25 ans. Il n'a jamais fait si chaud à Paris. Et les familles se barrent.
Oui, bien sûr. Il fait chaud, c'est à cause de l'élection des gens à Paris, bien sûr.
Donc ça ne sert à rien, ce plan.
C'est pas à cause des usines et du pétrole, non. Eh bien, aujourd'hui, l'adaptation, c'est le sujet prioritaire des villes.
Au lieu d'emmerder les automobilistes,
et les pistes cyclables que vous adorez critiquer tous les jours aux grandes gueules
pas, mais ça peut pas
sont
être, ça
la
peut
meilleure
être,
mesure.
Mais non, ça peut
c'est
pas
consensuel.
Être
donc,
mais non.
Donc en fait, Jean-Marc Jancovici est d'accord. Tous les ingénieurs sont d'accord.
Dit des conneries
tous les ingénieurs sont d'accord, mais Olivier Truchot
nous a dit qu'il fallait prendre
les deux.
Il a dit quoi ? Il fallait prendre l'avion une fois dans sa vie parce que tu comprends, il faut partager.
Il est ingénieur et il donne juste des réalités physiques.
Et moi, je vais rajouter un petit élément au débat.
Il y en a beaucoup qui voudraient qu'on vive comme pendant le confinement.
Pour refroidir les data centers.
valeurs qui sont si chères au développement de l'IA, il faudra construire des méga-bassines qui sont le double de Sainte-Soline.
Bah tiens, justement,
j'attends de voir si les soulèvements de la terre vont aller dynamiter, percer les vaches, comme ils le font pour l'agriculture régulièrement percer les bâches parce qu'il faut pas faire des méga bassines. J'attends de voir qu'est-ce qui va passer quand on va construire des méga bassines pour refroidir les data centers.
L'histoire une fois plus donnera tort aux écologistes et même qui étaient contre le nucléaire. Et aujourd'hui on voit bien qu'heureusement on est du nucléaire en France, sinon on serait dépendant de nos amis russes. Une fois plus sur la clim, un jour ou l'autre on lancera des plans clim. Un jour ou l'autre on fera des méga bassines.
Qui est contre la clim en France?
Ah bah les écologistes.
Ah bon? Ah
bah
oui. Je les ai pas entendus.
Bah si, ils sont hyper contre.
Attends, mais ils
sont jamais entendus.
Ah bah si, ils sont contre la clim.
Je crois même au contraire qu'ils ont pris position pour récemment.
Pour la clim?
Mais ah bah en fait, pas. Bah s'il y a des journalistes sur ce plateau,
t'as entendu Marie-Laure de Lille qui fait un plan clim dans les écoles? Ah bah tiens, ouais, retrouve-moi la déclaration.
Mais encore une fois, moi je défends pas les écologistes, je m'en fous.
Je défends l'écologie.
Et aujourd'hui, qui propose de s'adapter au réchauffement climatique? La gauche.
Non, la gauche, elle propose de se confiner.
Les méga-bassines, c'est la droite, pardon.
Les méga-bassines,
c'est contre fake news.
Non, les méga-bassines, c'est un moyen d'appauvrir les nappes.
Mais non.
Pareil, en fait, à un moment, voilà, faut écouter les chimistes, les physiciens.
C'est le surplus qu'on stocke, c'est pas ce qui va dans les nappes.
Justement,
va dans la mer.
Ce que disent les Verts, c'est réparons d'abord les passoires thermiques avant de mettre la climatisation. Voilà ce que disent les écologistes. Donc, justement, on a posé la question, est-ce que la France est à la ramasse? En ce qui concerne la canicule, ces fortes chaleurs, oui ou non? On va regarder ce que vous en pensez au 32-16. Enfin, plutôt, on va regarder ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Vous dites oui, complètement. Ben, vous allez voir que le sujet, il est cousinant avec l'écologie, puisque on est dans la surconsommation de vêtements. Aujourd'hui, on se rend compte que jamais les Français n'ont acheté autant de vêtements. Est-ce que ce sont des dépenses inutiles? Est-ce que c'est du gaspillage? Venez en discuter avec nous au 32-16. Il est midi moins 20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Il est midi moins le quart. Vous êtes avec les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Il vous reste encore 10 minutes pour prendre la parole et pour parler avec nous de cette surconsommation de vêtements.
Je suis la reine du shopping, je fais du lèche-vitrine, je cours dans tout Paris comme une folle. Je connais toutes les boutiques, magasins et prises uniques, où l'on s'habille t'as rien d'une babiole. Avec mon sac sous le bras,
rien qu'en entendant. Je fais le tour des prises uniques, vous vous rendez compte que ça parle d'une époque, aujourd'hui,
on pourrait plus la faire, celle-là, qui a révolué.
C'était Carlos, la reine du shopping.
Cette chanson-là, les assos sexistes et tout le monde serait là, hein.
La reine du shopping qui fait le tour des prises uniques. Bah, aujourd'hui, je sais pas de quelles enseignes on fait le tour, hommes et femmes. Dans tous les cas, ça consomme à tout va, ça achète à tout va du vêtement. Tel point qu'on sait qu'aujourd'hui, chaque personne achète à peu près, on dit des pièces, hein, plus de 40 pièces de vêtements.
Les Français ont acheté en moyenne 43 vêtements neufs en 2025. C'est un record. Des vêtements neufs qui seront demain des déchets. Et c'est pour ça que ceux qui ont fait cette étude alertent l'opinion publique parce que c'est un vrai souci. Tout ce textile qu'on achète, qui n'est pas fabriqué en France pour la plupart. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je me souviens ici même, on s'était posé la question, ah, c'est super, il y a les sites de revente, ça cartonne, ça veut dire que les nouvelles générations sont en train de prendre de nouveaux réflexes, on n'achète plus du neuf, on achète de l'occasion, parce que visiblement, c'est, alors peut-être que ça existe toujours, mais on n'hésite pas non plus à acheter du neuf. En 2025, les consommateurs français ont acheté 3,6 milliards de pièces de vêtements neufs, soit 10 millions par jour. 10 millions par jour.
Qu'est-ce qu'ils achètent, les gens?
Alors, est-ce que vous faites partie de ça? Je sais que Didier, lui, par exemple, passe son temps à acheter des
non,
chemises.
Non, mais tu rigoles. Il y a un... je peux raconter ce que tu m'as dit.
J'ai même une anecdote encore pire. Hein.
Alors, Didier me disait qu'au fur et à mesure qu'il revoit les photos de lui dans les Grandes Gueules, il se rend compte qu'il a les mêmes chemises depuis plus de 4 ans. 4 chemises.
Alors, après, elles ne bougent pas parce qu'il les lave... une fois par an. Et donc, du coup, elle bouge pas. Ça,
D'où les mouches. Mais c'est parce que comme ils travaillent essentiellement avec des vêtements, des t-shirts, en fait, les chemises, ces chemises, ils ne les usent pas. Ils sont toujours
un matin par semaine.
Un modèle de sobriété.
Non, mais 43 habits, moi, ça m'emmène à la boîte, hein. 43 habits meufs, ça m'emmènera au cimetière, les gars. J'ai sur les cuisses un jean neuf. J'ai cherché depuis quand j'avais pas acheté un jean. 4 ans, bientôt 4 ans. Après, c'est une. Alors après, j'ai des habits de travail, du coup, j'en passe plus. Mais 43 habits neufs, moi, ça m'emmène à la retraite. Hein.
Si on achetait des produits, si c'était le seul problème était qu'on achète des produits qui sont fabriqués pas aux normes et souvent par des enfants ou par des travailleurs mal payés, déjà ça aurait été grave. Si le seul problème c'est qu'il y a un impact carbone phénoménal pour les transporter jusqu'à chez nous, déjà ça aurait été grave. Si le seul problème c'est qu'on se ruine et notamment les ados, parce qu'on sait que les parents achètent plus pour les ados que pour eux-mêmes, à acheter des vêtements dont on n'a pas besoin et donc après on n'a pas assez d'argent pour d'autres choses, ça aurait été déjà assez grave. Si on imagine tous les déchets, on a tous vu des photos avec des déserts de vêtements en Afrique, parce qu'on les envoie où ces déchets, on les envoie en Afrique dans des déserts de vêtements, ça aurait déjà été assez grave. Si on imagine qu'il faut stocker à l'échelle d'une famille de 4, 40 nouveaux vêtements x 4 tous les ans dans des placards, on s'étonne que les gens aient pas assez de mètres carrés. Bah ça aurait déjà été assez grave. Tous ces problèmes cumulés ensemble nous montrent que c'est un sujet de société qui passe des enjeux écologiques aux enjeux de pouvoir d'achat, en passant par les enjeux des travailleurs et des droits des travailleurs. C'est une catastrophe, voilà. Donc maintenant, quand on cherche les solutions politiques, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Moi, je crois qu'une très bonne solution, c'est l'uniforme à l'école. Pourquoi? Déjà parce que les enfants n'auront pas besoin de nouveaux vêtements en permanence, puisque du lundi au vendredi, ils sont en uniforme. Mais en plus, parce que ça va un peu les déconnecter de cette société de l'ultra fast fashion, de l'ultra consommation, où en fait, tous les jours, on veut afficher un vêtement neuf. Je voyais sur les réseaux sociaux une tendance qui montre qu'on achète des vêtements pour les mettre qu'une seule fois. Voilà, aujourd'hui, l'ultra fast fashion, c'est ça que ça donne.
Oui, d'accord. Pourquoi tu veux que l'État se mêle de ça, Flora?
Pour toutes les raisons.
C'est pas le problème de l'État,
Pour toutes les raisons que je viens de te donner, Didier. D'abord, parce qu'on fait c'est la liberté du commerce de faire travailler des enfants dans d'autres pays, alors qu'on veut pas les faire travailler chez nous. C'est la liberté du commerce de faire des déchets dans d'autres, qu'on envoie sur d'autres continents parce qu'on veut pas les stocker chez nous. Oui, c'est la liberté du commerce de rendre malheureux les enfants à coup de pub sur TikTok.
Non, je veux pas
mettre une police du vêtement.
C'est dans le régalien de l'État, ça.
Je veux interdire TikTok. Alors, il n'y a pas plus régalien que ça.
Non, l'État s'occupe de la justice.
Cet enjeu-là, il est aux confins de tous les autres. Il n'y a pas plus central comme enjeu.
Ce qui est vrai quand même, c'est que l'industrie du textile est une industrie extrêmement polluante.
On est d'accord.
Et donc, même si c'est bon pour le commerce, etc.
Mais en quoi Chine est bon pour le commerce?
Pour le pouvoir d'achat.
On peut réfléchir à la question. Moi, j'achète moins de vêtements que la moyenne des Français, si j'en crois vos chiffres. J'achète des costumes et des chemises, mais une fois que je les ai, J'ai pas besoin d'aller acheter.
Tu fais attention.
J'ai toujours les mêmes t-shirts depuis fort longtemps.
On a Quentin qui va en parler avec les GG. Il est du côté de la Mayenne. Bonjour Quentin, chef d'entreprise. Comment vous avez réagi en entendant ce chiffre de plus de 40 pièces de vêtements achetées l'année dernière par les Français?
Moi j'ai la même question que vous, mais qu'est-ce qu'ils achètent les Français pour en acheter autant, quoi? Après mon propos allait revenir sur le sujet précédent, c'est que on a aussi des lois qui nous font acheter de la saloperie, quoi. C'est-à-dire que j'ai un cousin qui est agriculteur, qui est éleveur de moutons, la laine, il la jette ou il la brûle. Parce qu'on ne peut plus utiliser en France, on n'a plus le droit
Ça, c'est les lois.
Parce que les normes pour traiter la laine et voire même le savoir-faire maintenant est complètement perdu dans notre pays. Et tu ne seras jamais compétitif avec un vêtement en laine de mouton tondu en France par rapport à Chine. Voilà.
Pourquoi l'industrie du textile français est en très grande difficulté? Parce qu'on n'a pas voulu s'attaquer au coût du travail dans ce pays. Alors moi, j'adore. Donc en fait, on détruit notre industrie, puis ensuite on dit maintenant on va interdire aux Français d'acheter à l'extérieur. Mais il n'y a plus d'industrie, donc on est obligé d'acheter à l'extérieur. C'est complètement absurde. Il fallait se battre.
Quel que soit le coût du travail en France. quel que soit le coût du travail en France, nous ne serons jamais compétitifs avec Chine, pour une seule et bonne raison, c'est qu'ils ont des esclaves et des enfants qui travaillent pour eux.
Voilà, mais
tu veux rétablir l'esclavage en France?
Dans la caricature, allez-y. En fait, c'est l'économie version oui.
Ce qu'on va dire, c'est que toutes les lois qu'on a passées en France pour interdire le traitement de la laine, on interdit maintenant la vente de vivons ou de fourrure d'animal, parce que c'est pas bien, mais on préfère réchauffer la planète avec du plastique, mais pas prendre la fourrure sur les animaux. Il y a plein de lois comme ça qu'on a passées, et du coup, on a détruit notre industrie.
Maintenant, on pleure et on se dit, il faudrait interdire.
Moi, je connaissais en Ardèche.
J'ai pas le droit de l'utiliser sur moi, quoi.
Je connaissais en Ardèche des éleveurs de visons. Ça n'existe plus, ça.
Ah non, c'est fini. Alors que c'est la super qualité, et maintenant, vous en utilisez qu'un par an, qu'un dans votre vie.
Oui, mais on va pas réhabiliter maintenant le bison sous prétexte qu'on n'en utilise qu'un dans sa vie. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on a besoin d'acheter des t-shirts à 2 euros, d'en acheter 10 ou 20 dans l'année, quoi. C'est ça le problème aujourd'hui. Est-ce que c'est ça? Avant, on avait 2 t-shirts, on avait 2 paires de chaussures, 3 paires de chaussures. Aujourd'hui, maximum, tu avais tes chaussures pour faire ton sport, tu avais tes souliers vernis pour quand il s'agissait d'aller faire un déjeuner ou d'aller le dimanche ou une cérémonie. Et puis, tu avais les chaussures du quotidien, elles faisaient l'année et puis après, t'en attends. Tiens, combien t'as de paires de chaussures, Charles?
Ah non, des chaussures, j'en ai. Maintenant que je les ai. C'est pour ça que j'en achète plus beaucoup. Mais j'en ai beaucoup.
Qui tenait aussi.
Mais parce que si tu veux, quand tu t'habilles en costard cravate tout le temps, le truc qui change un peu, c'est les chaussures, la cravate.
Oui, sinon t'es toujours en bleu marine et chemise blanche.
Sinon t'as toujours la même dégaine. Donc j'ai quelques paires de chaussures.
Et c'est vrai que
merci à Quentin d'avoir été dans les GG, les amis. Fin des grandes gueules aujourd'hui. N'oubliez pas de retenir le montant de la prime de match. Ça, c'est important.
Combien?
Le montant de la prime de match, 67 500 euros. Et d'ici 18h, attention, l'un d'entre vous sera appelé. Il suffit de rester à l'écoute d'RMC, d'envoyer but par SMS au 732-16 pour ensuite être sûr d'avoir la possibilité de pouvoir être tiré au sort et appeler avant 18h. 67 500 euros à gagner. Bonjour Estelle Denis.
Bonjour Alain, bonjour les GG. Écoutez, nous allons parler du patron de Total, Patrick Pouyanné, qui nous fait une petite recommandation. Ah. Il recommande aux habitants des zones rurales d'acheter des voitures électriques parce que ça améliore le pouvoir d'achat. Est-ce que selon vous c'est du bon sens ou au contraire de l'indécence? Écoutez, on en débat avec vous dans un instant au 32-16. On va parler également de cette idée d'une association familiale, rembourser les thérapies conjugales pour éviter les divorces, pour ou contre. Vous savez que les divorces coûtent extrêmement cher à la société, alors que parfois 2-3 séances de thérapie
et c'est reparti.
Et ben on discute et on se remet ensemble, voilà, et ça coûte moins cher.
Oh bah si, parce que quand même la thérapie ça coûte.
Oui,
peut-être rembourser un laser game ou un paintball
Un divorce ça coûte très cher parce que souvent tu te retrouves avec
ça appauvrit les gens.
Donc tu te retrouves à payer plus d'alloc, etc. Alors que là
c'est ça qui crée la crise dans la grande ville.
Et hop, c'est réglé. Donc
mais il faudrait rembourser les massages du dos au GG pour se détendre après l'émission.
À mon avis, ça doit être remboursé. Tu dois avoir des massages remboursés, c'est fort possible.
Des massages à deux, comme ça, avec ton compagnon.
On continue, qu'est-ce qu'il y a d'autre
à venir? Ça va faire plaisir à Flora. Prendre l'avion 2 fois par an maximum, bonne ou mauvaise idée?
Nous y voilà.
C'est un forum Vimobile qui recommande ça, parce qu'en fait, on prend trop l'avion.
Il y a beaucoup de Français qui ne prennent jamais l'avion.
Oui, mais ce sont les mêmes personnes qui prennent beaucoup l'avion. En fait, il y a 20% des voyageurs en fait, qui trustent 90% des voyages. Donc, est-ce que vous seriez capable de ne prendre l'avion que 4 fois par an? On vous posera la question à 13h30 et puis on achète 43 vêtements. Voilà, 43 vêtements par an et par personne. Est-ce qu'on est devenu irresponsable avec ça? Dites-nous ce que vous avez acheté comme vêtements l'année dernière. Le tu préfères. Écouteurs avec ou sans fil? Sachez que les écouteurs avec fil, je ne comprends pas pourquoi, mais sont de retour. C'est la nouvelle tendance.
Oui, mais je crois que les écouteurs sans fil sont mauvais.
Le son est meilleur quand tu as un fil, quel que soit ton modèle de gamme. Alors ça, tous les pros te l'expliqueront.
Qui est capable de faire vraiment la différence entre un très bon son?
Il y a une énorme différence.
Son.
Je teste.
Et pense que tu écoutes.
Tous les professionnels te le diront.
Tu mets du trust.
Mais qui est capable de mettre du trust dans tes oreilles depuis que t'as 10 ans?
Normalement,
comme les gens qui achètent des espèces de barres de son énormes et qui disent j'ai un son super.
Ah bah si, tu vois la différence.
Si on avait une petite barre, ce serait pareil.
Non.
Allez, bonne émission.
Travaille en radio.
Bonne émission avec Estelle. Rendez-vous au 32-16 jusqu'à 15h.